Chapitre 4. L'été. La canicule. La pleine terre s'était abattue sur la Nouvelle-Canaan comme un amant vampirique cette année-là, tuant la terre et les récoltes des métayers, et les champs de la ville-forteresse de Gilead étaient devenus blancs et stériles. À quelques kilomètres vers l'ouest, près des frontières qui marquaient les limites du monde civilisé, la lutte avait déjà commencé. Les rapports étaient tous mauvais, et tous sombraient dans l'insignifiance devant la chaleur qui harassait le centre. Le bétail vacillait, les yeux vides, dans les enclos des parcs à bestiaux. Les porcs grognaient sans aucun entrain, insoucieux des truies, du sexe ou des couteaux qu'on affûtait pour l'automne à venir. Les gens se plaignaient des impôts et des conscriptions, comme toujours. Mais sous le semblant de passion de la joute politique, régnait une grande apathie. Le centre s'était effiloché comme un tapis usé qu'on aurait lavé, piétiné, secoué, accroché et fait sécher. Le lien qui retenait le dernier joyau autour du cou du monde était en train de se défaire. Les choses ne tenaient plus ensemble. La terre retenait son souffle dans l'été de l'éclipse imminente. Le garçon vagabondait dans le corridor supérieur de ce lieu de pierre qu'était sa demeure, ressentant tout cela, sans pourtant le comprendre. Lui aussi était vide et dangereux, et attendait d'être rempli. 3 années avaient passé depuis la pendaison du cuisinier qui trouvait toujours des encas au garçon affamé. Roland avait grandi, et ses épaules et ses hanches s'étaient étoffées. À présent, vêtu seulement de son jeans délavé, âgé de 14 ans, il ressemblait déjà à l'homme qu'il serait, grand, mince et rapide sur ses jambes. Il était toujours puceau, mais 2 des plus jeunes souillons d'un marchand du quartier ouest de Gilead lui manifestaient de l'intérêt. Il s'était senti réagir, et cette réaction allait croissant. Même dans la fraîcheur du couloir, il sentait la sueur sur son corps. Devant lui, les appartements de sa mère. Il s'en approchait, sans curiosité particulière, s'apprêtant à passer devant pour monter sur le toit où l'attendait une brise légère et le plaisir de sa main. Il avait dépassé la porte lorsqu'une voix l'interpella. « Toi, mon garçon !» C'était Martin, le conseiller. Sa tenue trahissait une désinvolture pénible et suspecte. Un pantalon de whipcord noir, presque aussi moulant qu'injuste au corps, et une chemise blanche ouverte à mi-poitrine sur son torse imberbe. Sa chevelure était ébouriffée. Le garçon le regardait en silence. « Entre ! Entre donc ! Ne reste pas ainsi dans le couloir. Ta mère désire te parler. » Sa bouche souriait, mais les traits de son visage étaient animés d'une humeur plus profonde, plus sardonique. Sous cet air et dans ses yeux, il n'y avait que de la froideur. En vérité, sa mère ne paraissait pas souhaiter lui parler. Elle était assise sur une chaise à dossier bas, près de la fenêtre, dans le salon central de ses appartements, celui qui donnait sur la pierre blanche et brûlante de la cour centrale. Elle portait une robe d'intérieur très simple, ample, qui glissait sans arrêt sur son épaule blanche. Elle jeta un regard au garçon, un seul, un éclair de sourire contrit, comme le soleil d'automne sur un ruisselet d'eau. Pendant l'entrevue qui suivit, elle regarda ses mains plutôt que son fils. Il ne la voyait plus que rarement, désormais. Et les fantômes des comptines, va, cours, vol, avaient presque complètement déserté son esprit. Mais elle était une étrangère bien aimée. Il ressentait une peur amorphe. Et ainsi naquit sa haine sourde pour Martin, le conseiller le plus proche de son père. « Vas-tu bien, Ro ?» lui demanda-t-elle avec douceur. Martin se tenait à ses côtés, une main lourde et dérangeante posée près de l'épaule blanche de sa mère à la naissance du cou blanc. Et il leur souriait à tous deux. Ses yeux bruns, à force de sourire, avaient viré au noir. Oui, répondit-il. Et comment vont tes études? Vanet est-il content? Et Corte? Sa bouche se crispa en prononçant le second nom, comme si elle avait goûté quelque chose d'amer. Je fais de mon mieux, fit-il. Ils savaient tous deux qu'ils n'avaient pas l'intelligence fulgurante d'un Cuthbert, et même la vivacité d'un Jamie. Lui était un bûcheur et un matraqueur, même Alain était plus doué pour les études. Et David? Elle connaissait son affection pour le faucon. Le garçon leva les yeux vers Martin qui souriait toujours à la cantonade, d'un air paternel. Il n'est plus de la première jeunesse? Sa mère eut comme un tressaillement. L'espace d'une seconde, le visage de Martin parut s'assombrir, et son emprise sur l'épaule de la mère de Roland se resserrer. Puis elle tourna la tête, regardant en dehors la chaleur blanche du jour, et tout redevint comme auparavant. C'est une comédie, pensa-t-il. Un jeu. Mais qui joue avec qui? Tu t'es coupé sur le front, dit Martin, le sourire toujours aux lèvres, en pointant négligemment le doigt vers la dernière rosée. Merci pour cette journée instructive, administrée par Corte. Seras-tu un combattant comme ton père, ou es-tu seulement lent? Cette fois, elle tressaillit bel et bien. Les deux, répondit le garçon. Il regarda Martin sanciller et eut un sourire douloureux. Même à l'intérieur, il faisait très chaud. Le sourire de Martin disparut tout à coup. Tu peux monter sur le toit à présent, mon garçon. J'ai cru comprendre que tu avais à y faire. Ma mère ne m'a pas encore congédié. Cerf! Le visage de Martin se tordit comme si le garçon l'avait giflé à la cravache. Il entendit le sursaut d'effroi de sa mère, tragique et insupportable. Elle prononça son nom, mais le sourire douloureux demeura intact sur le visage du garçon, qui fit un pas en avant. « Me donneras-tu un signe d'allégeance, cerf, au nom de mon père dont tu es le serviteur ?» Martin le fixait avec une incrédulité amère. « Va, fit-il doucement. Va retrouver ta main. » Un sourire horrible sur les lèvres, le garçon partit. Alors qu'il refermait la porte, lui parvinrent les gémissements de sa mère. C'était le gémissement d'une fée funeste. Et ensuite, sans pouvoir le croire, il entendit le serviteur de son père la frapper et lui ordonner de fermer son caquet. De fermer son caquet! Et ensuite, il entendit le rire de Martin. Et c'est toujours en souriant que le garçon se rendit à son épreuve.